moi, je suis Marie-Laure Brevet, je suis consultante en organisation et développement dans le domaine de la formation et je suis co-animatrice du groupe Capital Humain de l'ADIRA. Voilà.
Et bien, bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Raphaël Delgarde, je suis ingénieure d'affaires chez Sully Group, une ESN conservatrice, et je suis de RH de formation et recruteuse. Et donc, on va commencer cette deuxième table ronde sur le sujet du coup de la diversité, avec le thème et la question de comment promouvoir la diversité et libérer la parole sur le handicap. Et pour cela, on a le plaisir du coup de recevoir Camille Blanc, qui est chef de projet IT et chargée de RSE au sein d'Ardis, dans ses beaux locaux. On a également Anne-Françoise Marcelli, qui est DRH et responsable du programme handicap chez HPE, et Stéphane Pagès, qui est directeur commercial d'AFD. Capital Humain, donc c'est un groupe, justement, comme l'a présenté Pierre-Antoine de la DIRA. Nous nous réunissons à peu près une fois toutes les 6 semaines sur un créneau d'une heure et demie à peu près. C'est vraiment un lieu d'échange, d'expertise, de retour d'expérience sur différents sujets, plutôt RH et managériaux, à destination de tout public concerné par ces questions, donc que ce soit des managers ou des RH ou des recruteurs.
Et donc, le groupe Capital Humain a travaillé au cours des mois précédents sur cette thématique du recrutement et du handicap, parce qu'on sait que c'est une question qui adresse beaucoup les entreprises, hein, comment gérer, comment accompagner ce recrutement des personnes en situation de handicap. Et donc, on a fait intervenir différents experts, enfin, et grands témoins, puisqu'on a eu tout d'abord Anouk Patriarche qui nous a parlé de l'approche en intelligence collective au service de la formation de référents handicap. On a eu le témoignage d'Éric Laure, qui est le dirigeant d'AFD et entreprise adaptée, dont nous allons reparler avec Stéphane tout à l'heure. Nous avons également le témoignage de Lise Wagner, qui est elle-même en situation de handicap et qui est responsable de l'accessibilité au sein de l'entreprise alors Okinac, pas, qui est une entreprise spécialisée en accessibilité. On a également abordé la thématique de la formation des personnes en situation de handicap avec le témoignage de Naël Fawal, qui est directeur de 3W Academy et qui a mis en place des programmes spécifiques pour des personnes en situation de handicap. Et enfin, on a eu comme témoignage Caroline Chateaurial, qui est chef de projet handicap, RSE et handicap, au sein d'Handicap International, voilà, et qui est en charge justement de l'intégration des personnes en situation de handicap au sein d'Handicap International. Voilà les thématiques, mais du coup, ce soir, nous allons avoir nos témoins pour nous parler de leurs problématiques et de la façon dont ça se passe dans leurs entreprises. Alors, on va déjà adresser la question à tout le monde. La première question, pourriez-vous nous décrire votre contexte à chacun et puis à quelle organisation vous appartenez et la place de des missions handicap ou des personnes en situation de handicap au sein de vos entreprises? Allez, on
Je vais
commence, Camille.
commencer. Du coup, bah, Aurélie et Karim en ont parlé en tout début. Donc, le handicap, ça s'inscrit dans la thématique diversité au sein de notre stratégie globale de RSE, donc qui a été lancée il y a quelques années maintenant. Comment on s'organise principalement sur le handicap en particulier? Donc, on a toute une équipe en fait. Moi, je suis uniquement coordinatrice de l'équipe handicap et ensuite, on a toute une équipe qui travaille sur des thématiques et qui fait avancer des thématiques. Donc, on a notre référente handicap qui s'occupe de toute la dynamique de la politique handicap et on est en train de créer des handi ambassadeurs donc sur les sites pour mener cette politique handicap sur l'ensemble de nos sites. Il va animer tout ça. Ensuite, on a donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur le de rendre une intégration plus facile aux personnes en situation de handicap avec quatre axes dans notre entreprise, dans nos métiers, mais aussi dans l'emploi et la vie sociale en général. Donc, dans notre entreprise,
On va travailler sur tout ce qui est effectivement intégration, recrutement et autres. Dans nos métiers, on a un gros focus sur tout ce qui est accessibilité numérique, qui est aussi lié à la partie numérique responsable. Et puis après, dans l'emploi, donc on a des partenariats, notamment avec AFB, avec le groupe Néa. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler avec des entreprises adaptées pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc dans la vie sociale, ça passe aussi par des partenariats. Notamment, on a deux gros partenariats en ce moment. Le premier, c'est le partenariat d'une association qui s'appelle Handi Chien. Donc on parraine un chien qui s'appelle Tonka. Donc c'est un chien donc on le parraine sur toute sa formation. Il est formé pour justement accompagner les personnes en situation de handicap. Et ensuite, on a aussi des partenariats sportifs, notamment un partenariat avec Florian Joigny, qui prépare les JO 2024, qui est multimédaillé olympique, champion du monde, qui est de la région. Et donc, on fait beaucoup d'événements avec lui. Il vient chez nous pour présenter un certain nombre de choses. On a fait une sortie vélo avec lui il n'y a pas très longtemps. Il fait du handbike. Voilà, et du coup, on a toute une équipe qui travaille sur ces thématiques-là. Et chaque équipe, donc chaque sous-équipe, porte un projet et le diffuse à l'ensemble de l'entreprise
Merci.
et à l'extérieur.
Anne-Françoise, au sein de HPE, parce que c'est une vraie question intégrée chez HPE.
Tout à fait, c'est une question qui est intégrée, parce qu'en fait, la mission handicap et l'accord handicap le premier accord date de 1989 au sein de l'entité internationale. Donc, c'est vrai qu'on est je dirais, sur une question de longue date et sur une partie inclusion qui fait vraiment partie de l'ADN de HPE. On est dans un groupe international américain, donc une culture très inclusive, avec une intégration, une entreprise multiculturelle, je dirais sans distinction des religions, sans distinction des nationalités, des typologies de handicap. Donc on se situe vraiment dans ce contexte international. Et donc on a souhaité ancrer dès 1989 dans une entité sur notre entité internationale et qui s'est déployée, je dirais, beaucoup plus tardivement sur l'entité parisienne. On a deux entités, une entité grenobloise, je dirais, et provinciale, disons, et une entité parisienne. Donc elle s'est déployée en 2011 sur la partie parisienne, donc plus tardivement. Notre accord, il a vocation à couvrir tous les axes du handicap. Donc, nos objectifs, c'était sont d'intégrer et de recruter des personnes en situation de handicap, d'adapter les postes de travail. Donc, on a du maintien en emploi, maintenir les personnes en situation de handicap. Et aussi, parce qu'on a considéré qu'en fait, personnes en situation de handicap, il fallait non seulement enfin leur permettre d'adapter leur poste de travail, mais aussi les aider dans leur vie quotidienne. Donc, on avait un certain nombre de mesures qui étaient spécifiques à l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, l'accessibilité du domicile, voilà. Donc, on prend là une personne comme une personne comme une, voilà, à part entière, et on l'aide à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle, qui est, je trouve, quelque chose d'intéressant. Donc, prendre tous ces aspects. Donc, cet aspect, donc, je disais recrutement, maintien en emploi, l'aspect formation des personnes en situation de handicap, à la fois donner, je dirais, financer des formations en interne pour les salariés en interne, mais financer aussi des formations pour des personnes qui ne seraient pas salariées de l'entreprise, mais qui souhaiteraient se reconvertir pour des raisons de problématiques de santé. Et puis, tout l'aspect information, sensibilisation qu'on mène au travers de différents événements, pratiques, initiatives sur le sujet. Et notamment, moi, je suis, à titre personnel, j'en suis marraine, en fait, d'une start-up qui s'appelle Emoface, qui est gérée par deux entrepreneuses et qui a vocation à développer des applicatifs, un applicatif à destination des personnes en situation d'autisme pour les aider à décrypter mieux, faciliter leur apprentissage des émotions. Voilà, donc on a tout un panel de mesures dans nos accords. Et maintenant, alors c'est effectivement un peu ce que je disais Camille, on a vocation à aller au-delà de cette politique handicap, mais à l'intégrer dans une démarche ESG, donc RSE, environnementale, sociétale, enfin, dans une gouvernance environnementale, sociétale, parce qu'on considère qu'en fait, il ne faut pas être stigmatisant, mais il faut adresser toute la diversité et l'inclusion dans son ensemble.
Avant de passer, merci. Avant de passer la parole à Stéphane, qui va avoir beaucoup de choses à nous dire. Peut-être, Raphaël, tu peux nous expliquer au sein de Sully Group comment ça passe aussi l'approche.
Oui, alors en effet, alors chez Sully Group, on a 4 référents handicap qui sont répartis sur 4 sites et qui ont voilà, un vrai rôle, donc en plus de leurs activités. Un véritable rôle de conseil, de sensibilisation, de pédagogie auprès de nos consultants, parce qu'effectivement, il y a des collaborateurs et des candidats qui vont naturellement déclarer leur situation de handicap ou non, mais d'autres où justement il y a encore un petit tabou, il y a encore une parole qui n'est pas forcément encore très libre, et donc l'idée aussi c'est de mettre en avant que 80% des handicaps sont invisibles et que justement que les collaborateurs n'hésitent pas aussi à se rapprocher de nos référents pour leur demander conseil et puis leur permettre d'avoir aussi des réponses, parce que c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident d'avoir des réponses sur différents sujets quand on n'est pas une entreprise adaptée ou une entreprise avec un voilà, spécialisée en tout cas dans le sujet. Du coup, ça m'amène à toi Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une entreprise adaptée et surtout son rôle, à quoi elle consiste?
Alors, merci. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à la base, ce n'est pas parce qu'on est une entreprise adaptée qu'on sait tout faire mieux que les autres. Quand on a lancé le projet, c'est un projet qu'on a entre guillemets importé d'Allemagne. Hein. On n'avait pas eu l'occasion encore de travailler dans le monde de l'inclusion, des entreprises classiques, je dirais. Donc, on a progressé aussi en même temps que des collaborateurs nous rejoignaient. Sachant que l'objet premier de l'entreprise, eh bien, donc notre métier, c'est de reconditionner du matériel informatique. Et notre statut dans l'entreprise adaptée allait avec notre projet qui était de fournir des emplois pérennes, donc des CDI, à des personnes pour qui c'était encore plus dur à l'époque, surtout il y a une dizaine d'années, que les autres de trouver du travail. Aujourd'hui, paraît-il qu'il est très simple de trouver du travail. Et qui se retrouvaient effectivement dans des situations un peu plus compliquées, soit parce qu'ils avaient un souci d'origine, je dirais, physique, mental ou autre, soit parce qu'ils avaient eu un accident de vie, soit parce qu'ils avaient eu simplement un souci d'ordre physique, pour pas très, forcément très compliqué, mais qui les empêchait de faire le métier qu'ils faisaient avant. Bon, voilà, donc ces différents profils que l'on avait. Et nous, l'objet, c'était de pouvoir pérenniser des emplois pour des personnes ayant cette qualification, hein, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et parce qu'on sait qu'en France, quand on a un CDD, c'était compliqué, parce qu'on n'arrive pas à se loger, on n'arrive pas à louer un appartement, on n'arrive pas à faire un emploi et tout ça. Donc, c'est l'objet de l'entreprise adaptée, comme on l'avait vu, pas la contrainte, mais l'indication qu'on avait dans notre statut, c'était qu'on devait avoir, selon les textes, littéralement 80% de notre personnel de production qui soit en situation de handicap. Qu'est-ce que c'est de personnel de production? Je ne sais pas. Alors effectivement, on a des ateliers qui reconditionnent, mais on a aussi des boutiques qui vendent des ordinateurs, on a des comptables, tout ça. Donc, je me suis dit, OK, c'est... Donc, on est parti du principe qu'on allait faire 80%, tout inclus, encadrement et tout ça. Bon, juste une petite aparté, après le handicap, il y en a différents types, et puis il y a surtout, par rapport aux différentes personnes, un chemin à faire, surtout pour ceux qui ont un accident. Quand vous publiez une annonce, vous expliquez que vous êtes entreprise adaptée, vous recevez un CV, regardez, okay. Donc vous n'avez pas le droit d'embaucher que les personnes en situation de handicap, hein, parce que c'est la discrimination. Donc, vous avez la personne au téléphone, vous dites, mais vous savez qu'on est une entreprise adaptée, donc on va privilégier plutôt les personnes en situation de handicap. Ah, mais j'ai une reconnaissance handicapée. Mais pourquoi c'est pas écrit sur votre CV? Ah, parce qu'ils m'ont dit chez Pôle emploi qu'il ne fallait pas le mettre. Bon. Et derrière ça, il y a juste un chemin à faire. On a une personne qui est arrivée chez nous il y a 10 ans, qui va nous quitter là, le mois prochain. Elle a passé 10 ans avec nous, elle était directrice de la communication chez nous. C'est une personne qui bossait en agence de communication à Paris, qui cachait absolument son souci, c'est un handicap visuel. J'ai du mal à imaginer qu'elle pouvait vraiment le cacher, parce que c'est quand même très compliqué pour elle. Je veux dire, dans sa vie de tous les jours, enfin, ça se voit, quoi. Et elle l'a caché. Ensuite, elle est arrivée chez nous. Et quelque part, elle l'a revendiqué, puisqu'elle a mis, entre guillemets, son énergie et son talent et ses idées au service de l'entreprise. Donc, c'est un chemin pour chacun, et il n'y a pas de, il y a pas de cas, il n'y a pas de cas général. Donc, c'était juste une petite aparté par rapport à ça. On parle de diversité et d'inclusion, d'où nous, notre métier à la base, c'était ça, c'était notre mission entreprise adaptée, 80% des collaborateurs en situation de handicap, en CDI. Parfait. Et puis, il y a 4-5 ans, on nous a un petit peu changé les règles. On nous a expliqué, alors c'est un projet pilote, entre guillemets, qui dure quand même maintenant. On nous a expliqué qu'on ne devait plus être une entreprise qui allait fournir un job pérenne pour des personnes ayant cette reconnaissance, mais qu'on devait être des passerelles pour ces gens, ces personnes-là, vers des entreprises classiques. Un petit peu comme des entreprises d'insertion spécialisées pour le handicap. On faisait partie du monde de l'insertion dans l'absolu, hein, mais bon. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut être aidé, eh bien, on ne doit plus embaucher en CDI, mais en CDD. On a un CDD spécial pour nous, ça s'appelle le CDD temps plein. Ça peut durer jusqu'à 2 ans. Et derrière, enfin, et pendant ce temps-là, on doit bien évidemment continuer à former les gens et aussi les accompagner pour qu'ils essayent de s'intégrer dans des entreprises, d'aller trouver un job dans une entreprise classique. Pourquoi pas? C'est bien, ça va correspondre pour certains, pour d'autres, ça sera plus compliqué, ça sera pas possible, mais bon. Pour autant, ça nous a permis aussi d'avoir une approche un peu différente avec nos partenaires. On travaille avec beaucoup d'entreprises, avec Ardis ici, avec d'autres au niveau national, d'entreprises publiques, d'entreprises privées. Mais on avait aussi ce besoin, en tant qu'entreprise d'insertion, entre guillemets, de trouver un débouché pour nos collaborateurs à la fin de leur CDD. Donc, ça a fait aussi des échanges intéressants. On a fait des opérations ensemble, hein, puisqu'il y a des opérations qui sont un petit peu des opérations pilotes phares dans l'année ou pendant une journée. Ben voilà, il y a une personne d'une entreprise adaptée qui va aller dans une entreprise classique, juste d'échanges, de partage, d'échanges de reconnaissance. Et on a dû embaucher des chargés d'insertion, donc voilà, à faire aussi ce travail-là. Et finalement, pour d'une part arriver à aider nos collaborateurs à aller dans une entreprise classique, on avait des partenaires, des entreprises avec qui on travaillait, qui venaient vers nous parce que ben, lorsqu'on leur faisait une facture pour facturer nos services, et ben, ils en récupéraient une bonne partie sur leur cotisation AGFIP. Okay. Ce qui voulait dire quelque part que voilà, aider les petits handicapés à travailler dans la démarche. Ça a du sens, hein, c'est pour compenser effectivement des choses, mais dans l'esprit, il y avait ça quand même derrière. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, il y a un petit changement d'optique intéressant. Vous l'avez dit, il y a des problèmes pour recruter aujourd'hui. Pour nous, oui, mais pour tout le monde. Et finalement, pas mal d'entreprises se disent, est-ce que la diversité, ça ne serait pas finalement pour nous une chance de trouver ben, des candidats et de trouver des talents autres que ceux qu'on a l'habitude de recruter? Alors, le handicap, c'est une chose, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça peut être une approche sociale. Ben, voilà, une association auquel on participe également, qui s'appelle l'Association des entreprises inclusives de l'IDER, qui va travailler aussi là-dessus, et c'est sur ce changement de paradigme, de dire que, eh ben, une personne qui va possiblement être en insertion, une personne qu'on appelle les mains de justice, des personnes qui ont des soucis avec la justice, qui ont été éventuellement en prison, des personnes qui ont été déscolarisées, des personnes qui viennent de quartiers défavorisés, est-ce que finalement, ben, ça serait pas une chance aussi pour nous, et à nous d'aller vers eux, pour les attirer en tant que collaborateurs. Donc, je trouve assez intéressant comment dirais-je, cette évolution. Alors, j'espère qu'elle n'est pas que temporaire hein, et ponctuelle due à la situation aujourd'hui, mais de dire que ben non, il faut les aider, hein, les petits handicapés, à bosser. Et puis, de l'autre côté, dire, ah ben mince, et si finalement ces personnes, c'était pas les ressources qui nous manquent, et ça ne serait pas plutôt une opportunité pour nous. Et c'est des choses qui sont en train de se passer, c'est assez intéressant. C'est pas simple, hein. Quand je disais tout à l'heure que nous non plus, on ne savait pas tout faire, il faut quand même savoir qu'on est une entreprise adaptée, donc on est censé accueillir une majorité de personnes en situation de handicap, mais le handicap, c'est médical. Et qui dit médical, dit secret médical. Donc, on est censé accueillir une personne, adapter son job, son poste de travail, sans savoir exactement ce qu'elle a. C'est ce qu'elle va nous dire, qui peut être vrai, faux, incomplet. Donc, ce n'est pas simple non plus. Et c'est la même problématique que vous allez avoir dans toutes les entreprises quand vous allez intégrer des personnes en situation de handicap, parce qu'encore une fois, le handicap, tout le monde le vit différemment. Certains veulent le cacher, d'autres veulent se le cacher. C'est de l'humain. C'est de l'humain.
Un chemin.
C'est un chemin pour chacun, oui. Mais même dans la relation de tous les jours, c'est aussi faire cohabiter des gens avec parfois comment dirais-je, des difficultés qui peuvent pas forcément bien s'accorder. C'est pas évident. Il faut arriver à garder une équité parmi une population qui n'est par définition pas différente les uns des autres. C'est pas forcément simple. C'est très riche humainement, hein, humainement seulement. Mais c'est très riche. On parlait de sens tout à l'heure. On bosse pas moins, hein. Oui, c'est pas simple. Parfois, on a des grandes incompréhensions parce qu'on essaye de faire avec. Mais quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est tous les encadrements. On essaye de faire avec la meilleure volonté. Et petite parenthèse, des encadrants qui sont eux-mêmes RQTH comme les autres, hein, avec la meilleure bonne volonté, avec le meilleur bon sens. Et pour autant, ben, on a du mal à comprendre le retour qu'on en a. Voilà, c'est de l'humain. Mais ça, c'était une partie. Mais encore une fois, je trouve intéressant par rapport à cette notion d'inclusion et de diversité, le fait que on se rende compte aujourd'hui que peut-être c'est une ressource et peut-être c'est une richesse d'aller vers des publics un peu différents. Le handicap en est un, mais pas uniquement. Et c'est, je trouve, au niveau sociétal assez intéressant.
Justement, Anne-Françoise, pour rebondir, comment intégrer les personnes en situation de handicap en étant, voilà, sans tabou, mais sans être discriminant non plus? Comment est-ce que, dans l'entretien, on peut gérer cette problématique? Comment est-ce que ça a été prévu chez HPE? Est-ce que ça a été accompagné auprès des managers, des recruteurs, etc.?
Alors déjà, dans un premier temps, au niveau de l'équipe recrutement, elle a été formée au handicap, c'est-à-dire voilà, expliquer ce que recouvrait la notion de handicap, quelles étaient les différentes typologies de handicap et comment appréhender la notion de handicap lors de l'entretien. Il faudrait que je rejoigne ce que tu disais. Le handicap, on s'aperçoit que certaines fois c'est mentionné sur le CV, d'autres fois non. Parfois, on fait aussi du sourcing au travers de cabinets de sourcing qui sont spécialisés en matière de handicap, ou je participe parfois à des forums également spécialisés en handicap. Donc, on a différents types de sourcing avec parfois une information qui est connue, d'autres fois une information qui n'est pas connue, et une information qui est, je dirais, soit pas forcément revendiqué, mais en tout cas, enfin, qui est exposé ou pas par les candidats. J'ai pas de quand le handicap est visible, c'est assez simple puisque du coup, on exprime clairement ce qu'on fait en matière de politique, qu'on a une mission handicap, qu'on peut les accompagner. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Quel est l'impact? Alors, j'aborde toujours la question de, voilà, pas de la pathologie, mais si la personne était amenée à nous rejoindre, quels seraient les aménagements dont on aurait le besoin dans le cadre de son travail? Quel est l'impact de sa pathologie sur le travail? Et je dirais de façon assez enfin, simple, en fait, les candidats ben, partagent ce dont ils ont besoin. Donc, quand c'est visible, c'est assez simple. Quand c'est invisible, soit c'est mentionné, soit c'est pas mentionné. Quand c'est mentionné, quand c'est connu, la question que je me pose fréquemment, c'est moi au niveau de la mission handicap, Je le sais, mais est-ce que je le partage ou pas avec le manager? Et là, j'ai pas de réponse en fait toute faite générale. C'est-à-dire que j'avise en fonction de la personnalité du manager. Je sens si le manager est réceptif ou pas. Je vois que s'il y a un manager qui est plus réfractaire et pour lequel ça serait complètement un frein, qu'il aura un biais dans le recrutement, je ne le dis pas. Je laisse l'entretien se dérouler de façon classique. On laisse le match se faire entre les compétences attendues, ce que recherche la personne, le candidat. Voilà. Donc, je dirais vraiment au cas par cas. Par contre, au moment où on est en shortlist, c'est-à-dire qu'on est dans les derniers entretiens et que je vois qu'il peut y avoir un frein côté managérial, bah, je vais faire intervenir, enfin, je vais en discuter avec le manager, je vais expliquer notre démarche, je vais faire comprendre quels sont les enjeux de notre côté, quelle est la richesse, pareil, ce que peut apporter la personne. Et j'essaie d'expliquer de façon assez, je dirais, transparente et surtout, enfin, sans dramatiser, sans pathos et de façon assez technique, c'est-à-dire il y a une problématique de santé, il y a un impact sur le travail, enfin, on a besoin de compenser et on apporte tels aménagements et ça va permettre à la personne de travailler dans un environnement le plus proche possible d'un environnement, enfin, neutraliser la situation, elle est le plus proche possible d'une situation classique. Donc voilà, j'essaye d'expliquer les enjeux, la politique au manager et j'essaye aussi de pouvoir aussi inclure notre sponsor, par exemple handicap, pour qu'il puisse être promoteur. Souvent, c'est un père du manager qui peut expliquer aussi et avoir un rôle aussi complémentaire au rôle de la DRH. Donc vraiment, c'est tout ce travail, je dirais, pour désamorcer les réticences, expliquer, c'est de la pédagogie, c'est faire comprendre le bénéfice, la richesse que ça peut apporter, les enjeux, ça peut être aussi des enjeux, les contraintes légales, notre démarche, voilà, notre culture d'entreprise. Pour qu'on puisse apporter cette situation de handicap et l'expliquer correctement.
Camille, chez Arvis, comment ça se passe au niveau des entretiens? On est à la fois non discriminant, inclusif, bienveillant et justement après cette transmission au manager et au manager de proximité.
Alors déjà, souvent dans le processus de recrutement, les managers sont dans de recrutement. Donc, l'idée, ce n'est pas de sensibiliser et de former que les chargés de recrutement, mais aussi l'ensemble des personnes qui participent au processus de recrutement. Et après, je dirais, on en apprend tous les jours. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a décidé de vraiment mettre en avant le handicap. Après, on a la chance chez Ardis Group que ça fait vraiment partie de l'approche d'Ardis Group, cette thématique dans notre ADN qui va être l'ouverture, qui va être la proximité, l'écoute, l'initiative, l'entraide entre les collègues, etc. Donc on a vraiment la chance d'avoir un ADN qui nous permet justement de porter facilement ces sujets-là. Il y a aussi au niveau des écoles. Donc, nous, on travaille de plus en plus avec les écoles. En fait, je dis, on apprend tous les jours. On apprend aussi de nouveaux réseaux. On apprend à aller vers d'autres lieux ou d'autres endroits où on n'avait pas l'habitude d'aller, notamment les écoles, notamment effectivement la GFIP ou d'autres associations, etc. Et donc, on apprend petit à petit. Ce qui m'arrive bien après, on parlait d'expérience collaborative. Tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, l'expérience. Et on a fait, par exemple, pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées l'année dernière, en novembre dernier, on a, par exemple, proposé aux collaborateurs de faire un tour en fauteuil roulant, de faire un parcours avec les yeux bandés, etc. Donc voilà, il y a ça. Ça peut être aussi, on a organisé une sortie vélo avec notre partenaire Florian Joigny, qui est notre partenaire handisportif. Voilà, et du coup, on essaye aussi de mettre les personnes confrontées directement avec des personnes en situation de handicap. Et là, on est en train de réfléchir à faire plus des informations justement sur qu'est-ce que le handicap, que finalement, bah, effectivement, 80% des handicaps sont non visibles. Qu'est-ce que ça veut dire un handicap non visible, etc. Qu'est-ce qu'un handicap auditif?
Super, merci. Donc effectivement, on a évoqué la partie recrutement, mais aussi la partie intégration est tout aussi importante pour fidéliser, puisque l'expérience collaborateur soit la plus optimale possible. Du coup, pour vous trois hein, qui êtes dans des structures différentes, quelles sont selon vous les bonnes pratiques à avoir pour intégrer du mieux possible le nouveau collaborateur en situation de handicap et surtout donc auprès de l'équipe, quelles sont les bonnes pratiques pour vous, quels sont les must-have à avoir pour intégrer quelqu'un?
Permettre juste de prendre la parole, parce que nous, on est confronté au problème inverse. C'est-à-dire qu'en parallèle de devoir changer le statut de nos collaborateurs RQTH, ben, on a dû baisser le taux de personnes en RQTH dans notre salariat, puisque vu que l'objectif, c'est de l'intégration, eh ben, il ne fallait pas qu'il y ait trop une bise d'entre nous, quoi. Donc, nous, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs, entre guillemets, lambda, qui nous rejoignent, et il faut leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de rejoindre une entreprise adaptée non plus. C'est peut-être un peu demandant. Mais voilà, donc c'est juste une petite aparté pour dire que bah, ça existait dans les deux sens finalement. Ça existe dans les deux sens.
Donc, nous, enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, nous, on a la chance aussi d'avoir un sponsor qui est, enfin, je pense que c'est important d'avoir un sponsor au niveau de direction, COMEX, etc. Donc, sponsor handicap, c'est la DRH qui nous aide beaucoup justement à faire porter ça au niveau de la direction de l'entreprise, porter ces thématiques-là. Après, on a parlé, parce que pendant toute la table ronde, hein, je parlais d'expérience, de sensibiliser, etc. Mais il y a aussi, il y a plein de choses qu'on a mis en place et il faut faire connaître aussi ce qu'on a mis en place. Par exemple, référente handicap, c'est la visibiliser son rôle. On a une personne qui est un contact RH pour tout ce qui est accompagnement administratif de la reconnaissance qualité travailleur handicapé. On a la possibilité de demander un équipement spécifique si c'est nécessaire. Donc tout ça, voilà, il faut aussi le rendre visible, pas que de mettre en place des actions. Si personne n'est au courant, ça va pas marcher. Et après, il y a évidemment la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà, on est en train de regarder pour mettre en place des e-learnings spécifiques sur le handicap, sur la diversité en général. Karim, on en a parlé tout à l'heure aussi, sur la diversité en général, la non-discrimination générale pour le recrutement, mais pas que. Mais il y a aussi, c'est un gros point dans la partie onboarding de nos collaborateurs et collaboratrices, mais aussi des managers. Et du coup, quand on a des nouveaux managers, qui viennent de l'interne ou qui viennent de l'externe, l'idée c'est de mettre de plus en plus l'accent sur justement qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les outils à leur disposition, quelles sont les personnes qui peuvent les accompagner. Voilà. Et après, il n'y a pas que les personnes en situation de handicap, c'est aussi, ça touche aussi les proches aidants. Voilà, donc. Peut-être pas non plus en débattre pendant longtemps, mais je pense que les proches aidants, c'est aussi un axe sur lequel on travaille et sur lequel on accompagne nos collaborateurs et nos collaboratrices, qui est aussi extrêmement important.
J'aurais peut-être juste rajouté une chose. Effectivement, je suis d'accord avec la structuration, le référent, les ambassadeurs sur les sites qui sont plus proches des ambassadeurs handicap qui maillent le terrain, qui sont plus proches des collaborateurs et qui sont vraiment des relais de proximité. Ce qui me semble intéressant, et c'est une équipe pluridisciplinaire. Et moi, à chaque fois, en fait, parce que dans mon rôle en fait de mission handicap, enfin responsable mission handicap, j'ai pas la compétence médicale. Donc moi, vraiment, je travaille en lien très étroit avec les infirmières, la médecine du travail, des ergonomes, des prestataires spécialisés dans les adaptations de poste, qui puisse m'aiguiller et me fournir les équipements, le bon matériel. Mais dans un premier temps, on est sur une problématique de santé, donc moi, j'ai besoin de m'adresser à des professionnels en la matière. Et ensuite, moi, j'interviens pour trouver des solutions, en fait. Trouver des solutions avec des organisations de travail, du matériel technique, des prestataires spécialisés sur le domaine. Mais vraiment, je pense qu'il faut aller chercher la compétence là où elle est. Donc, vraiment s'entourer d'une équipe et chacun apporte à son niveau avec ses propres compétences. Et vraiment, c'est le maître mot. Moi, je suis la coordinatrice, le chef d'orchestre sur le sujet. Et peut-être dernier point aussi, ce qui peut faciliter aussi dans une mission handicap, c'est d'avoir un budget dédié. Parce que quand on a un budget dédié uniforme, il n'y a pas de problématique financière, de contraintes budgétaires. C'est-à-dire qu'on pioche, on puise dans le budget. Il n'y a pas de disparité suivant le manager, le business, en fonction, en fonction des possibilités financières des business. Donc, le budget centralisé dédié permet d'accompagner une politique handicap sur le sujet. C'est un point aussi important, je pense.
Politique globale.
Politique globale, voilà.
Merci. Donc, c'est un vaste sujet. Hein. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. On pourrait parler de la formation des personnes en situation de handicap. On sait qu'il y a aussi des problématiques liées à ça. Et du coup, à l'intégration derrière, c'est aussi quelque chose qui est bien maintenant développé dans le domaine de la formation professionnelle aussi, cette prise en compte des personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, on aurait énormément de choses à dire. C'est un sujet vaste, intéressant, et on vous remercie de ces témoignages.
Merci.